VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, Nathalie Barge et Eric Manirakiza en votre compagnie. Bienvenue à l'écoute de cette édition du 10 octobre 2016. Au sommaire ce soir.
Entretien entre Blaise Compaoré et Henri Konan Bédié ce lundi. Aucune déclaration à l'issue de la rencontre.
Il n'a pas souhaité faire de déclaration à la presse. Mais il faut dire que Blaise Compaoré était très souriant, bonne mine, et il est rentré bien tombé dans son costume de sombre.
Tournée africaine de la chancelière allemande Angela Merkel est au Niger au lendemain de sa visite au Mali.
Et dans l'est de la RDC, 12 morts et des habitations incendiées dans une nouvelle attaque armée près de Beni.
Annonce d'un gouvernement d'unité nationale au Soudan ce lundi par le président Omar el-Béchir.
Le bilan de l'ouragan Matthew qui a frappé Haïti la semaine dernière s'est alourdi à au moins 372 morts et 246 blessés.
Les présidents russes Vladimir Poutine et turc Recep Tayyip Erdogan ont entamé des discussions à Istanbul sur la coopération énergétique.
L'économie et les sports, ce sera juste après le journal.
12 morts, c'est le bilan d'une nouvelle attaque hier soir à Beni, dans l'est de la RDC. Parmi les morts, deux assaillants. L'armée congolaise a réussi à chasser les assaillants, mais plusieurs villages se sont vidés de leur population depuis dimanche. Des précisions de notre correspondant dans la région, Charlie Kazereka.
C'est en début de la soirée ce dimanche 9 que les assaillants ont fait incursion dans les villages de Mayangosé, au nord-ouest de la ville de Beni, à plus de 300 km au nord de Goma. Les assaillants que l'armée congolaise identifie comme des éléments de la rébellion d'islamistes des ADF qui voulaient attaquer une position militaire et tuer la population civile, selon les porte-parole de l'armée congolaise dans cette région. Dans la panique, des crépitements des balles et la population civile s'est déplacée vers les centres-villes de Beni par peur. Jusqu'à ce soir, les forces armées congolaises continuent à ratisser la zone, mais le village reste vidé de sa population. L'organisation Human Rights Watch a formulé des critiques à l'égard des autorités congolaises et de l'ONU, les accusant d'incapables d'empêcher les massacres à répétition commis depuis des ans dans l'est de la RDC. L'ONG exhorte Kinshasa et l'ONU à définir de nouvelles stratégies pour protéger les civils dans cette zone où environ 650 civils ont déjà perdu la vie depuis 2014. Depuis Goma, Charlie Kasereka pour VOA Afrique.
En Afrique du Sud, de violents affrontements ont à nouveau opposé aujourd'hui les forces de l'ordre des étudiants hostiles à l'augmentation des frais de scolarité. La reprise annoncée des cours a donc été très perturbée, n'est-ce pas, Nanit Talani?
Sur ordre des autorités, les cours ont bien repris ce lundi sur le campus de Wits à Johannesburg après 3 semaines de perturbations. Mais ils ont été rapidement interrompus par des centaines d'étudiants en colère contre la hausse des frais de scolarité. La police et la sécurité privée sont intervenues contre des manifestants qui jetaient des pierres. Les forces de l'ordre ont fait usage de grenades lacrymogènes et assourdissantes, de balles en caoutchouc et des canons à eau pour les disperser. Les responsables de la faculté de Wits affirment qu'ils n'ont d'autre choix que d'essayer de sauver l'année universitaire. Les cours ont aussi été perturbés à l'université de Stellenbosch dans le sud-ouest. L'université du Cap, deuxième ville du pays, est restée fermée. L'université du KwaZulu-Natal dans l'Est a annoncé la suspension des cours jusqu'à nouvel ordre en attendant le retour au calme.
Des dirigeants africains sont attendus aujourd'hui à Khartoum, la capitale du Soudan, pour assister à l'annonce d'un gouvernement d'unité nationale par le président Omar el-Béchir, qui mettra fin à 2 ans de dialogue national entre le gouvernement et l'opposition. Chérubin Dorsil nous en dit plus.
Le gouvernement du président Omar el-Béchir a négocié pendant 2 ans avec l'opposition. Le parti au pouvoir, le Congrès national et la rébellion ont approuvé hier les recommandations en vue de la formation d'un gouvernement d'union nationale. Selon le ministre soudanais de l'Information, Ahmed Bilal, le président Béchir s'engage à mettre sur pied ce cabinet dans un délai de 90 jours à partir de la conclusion du dialogue national. Sur la liste des dignitaires présents dans la capitale soudanaise, il y a Idriss Déby Itno, le président tchadien et président en exercice de l'Union africaine, ses homologues Abdel Fattah el-Sissi de l'Égypte, Mohamed Oul Abdelaziz de la Mauritanie et le chef de l'État ougandais Yoweri Museveni. Cette présence de plusieurs chefs d'État africains à Khartoum est aussi un pied de nez à la CPI qui a émis un mandat d'arrêt contre le président soudanais Omar el-Béchir.
En Guinée, les violences de la présidentielle de 2015 restent impunies. On déplorait dans un communiqué aujourd'hui Amnesty International et Human Rights Watch. Les deux organisations avaient documenté une douzaine de meurtres et de viols. L'opposition a partagé son constat d'absence de justice. Mais le porte-parole du département de la justice, maître Ibrahima Beavogui, a rejeté ces critiques.
L'Éthiopie a accusé l'Égypte et l'Érythrée d'être à l'origine des violences qui agitent le pays et ont conduit le gouvernement à déclarer l'état d'urgence pour 6 mois. Il y a une menace renouvelée venant de différentes directions, des ennemis extérieurs déterminés à détruire le pays, a déclaré le ministre de la Communication, Getachew Reda, lors d'une conférence de presse à Addis Abeba. Ces éléments anti-éthiopiens utilisent les manifestants pour remettre en cause toutes les réussites de l'Éthiopie ces 15 ou 20 dernières années, a-t-il ajouté. L'Éthiopie est en proie à un mouvement antigouvernemental qui a commencé en région Oromo fin 2015 et s'est étendu dans l'Amara.
Les juges nigériens se réuniront en urgence demain pour évoquer l'arrestation ce week-end de plusieurs magistrats de haut rang par la police secrète lors d'une opération anticorruption annoncée ce lundi le président de la Cour suprême. Au moins 7 juges ont été arrêtés. L'enquête portait sur un total de 15 juges soupçonnés d'avoir touché des pots de vin. Ce raid, qualifié de sans précédent, a été condamné par le barreau et des militants des droits humains au Nigeria. Les autorités fédérales affirment avoir saisi 800 000 dollars américains lors de descentes au domicile de magistrats. Le président de la Cour suprême, Mamadou Mohamed, a dénoncé ces arrestations tout en demandant à ses compatriotes de rester calmes.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Haïti a commencé dimanche un deuil national de 3 jours après une nouvelle crise humanitaire provoquée par l'ouragan Matthew. Des précisions avec Anastasie Tudiech.
Les autorités haïtiennes indiquent que le bilan du passage de l'ouragan Matthew s'est alourdi à au moins 372 morts, 4 disparus et 246 blessés. Plus de 175 000 personnes sont hébergées dans des sites provisoires et la Grande Anse, dans le sud du pays, est le département le plus touché avec 198 morts, 97 blessés et près de 100 000 sans-abri. Des régions entières sont coupées du reste du pays, tandis qu'un million de personnes, selon l'ONU, ont besoin d'une aide d'urgence. Après Haïti, l'ouragan Matthew a balayé le sud-est des États-Unis, où il a fait au moins 17 morts avant de s'éloigner des côtes américaines.
Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a accusé le président syrien Bachar al-Assad d'avoir causé la mort de 300 000 personnes en Syrie. L'armée syrienne, appuyée par les frappes de l'aviation russe, a lancé une offensive d'envergure contre Alep et progresse sur le terrain pour reprendre les quartiers de cette ville contrôlés par les rebelles depuis 2012.
En Afghanistan, les talibans ont déclenché aujourd'hui une offensive sur la province du Pavot dans le sud du pays. Au moins 14 personnes, dont 10 policiers et 4 civils, ont été tués.
Les espoirs de paix se sont considérablement éloignés au Yémen après des frappes sanglantes sur Sanaa. Le bombardement a été attribué à l'Arabie Saoudite qui se heurte à des choix militaires et diplomatiques difficiles. L'attaque a fait samedi plus de 140 morts et 525 blessés.
En Israël, plus de 3000 membres des forces de sécurité sont en état d'alerte à l'approche des grandes fêtes juives à partir de demain. Cela à la suite d'un attentat meurtrier à Jérusalem qui ravive les craintes d'une nouvelle éruption de violence.
La police turque a dispersé ce lundi à coups de gaz lacrymogène et de balles en caoutchouc des manifestants pro-kurdes. Ils étaient venus rendre hommage aux 103 morts de l'attentat de la gare d'Ankara survenu il y a un an. Cet attentat, le pire qu'a connu la Turquie dans son histoire récente, a été attribué par les autorités au groupe État islamique.
Des discussions sur la coopération énergétique sont en cours entre Ankara et Moscou. Vladimir Poutine et Recep Tayyip Erdogan se sont entretenus aujourd'hui dans un palais d'Istanbul en marge du Congrès mondial de l'énergie organisé dans la métropole turque. Les deux présidents ont passé sous silence leur profond désaccord sur la Syrie.
Et la justice irakienne a invalidé aujourd'hui la décision du Premier ministre de supprimer les postes de vice-président de la République. La plus haute cour de justice du pays a conclu que M. Abadi contrevenait à la Constitution. Il devra donc conjuguer avec son rival et prédécesseur Nouri al-Maliki.
Et attribution aujourd'hui du prix Nobel d'économie à deux théoriciens du contrat, l'américano-britannique Oliver Hart et le finlandais Bengt Holmström. Leurs travaux couvrent un vaste champ d'application de la faillite au droit constitutionnel. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est dans la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Nanit Talani.
Les bureaux du groupe sud-africain Rouen Gold Resources, producteur d'or, ont été fermés à Bamako à cause d'un différend fiscal qui porte sur plus de 200 millions de dollars. Présent au Mali depuis 20 ans et coté à la bourse, Rouen Gold Resources estime qu'une grande partie des taxes exigées sont injustifiées et sans fondement. Ce groupe souhaite que des discussions se poursuivent pour trouver une solution à ce différend avec l'État malien. Plus de 50 petites et moyennes entreprises et start-up dans le Sahel ouest africain vont bénéficier d'un appui financier de 3 ans de l'agence américaine USAID et son allié investisseur et partenaire. Entré en vigueur en octobre, l'accord porte sur un financement de 1,17 million de dollars en faveur de Synergie Niger, Synergie Burkina et Teranga Capital au Sénégal. Appuyé par l'USAID, le mécanisme permettra de mobiliser en 3 ans jusqu'à 5,6 millions de dollars pour accompagner les 50 entreprises, ce qui devrait permettre de créer jusqu'à 2000 emplois. Enfin, dans un communiqué, les autorités fédérales nigérianes ont indiqué avoir arrêté 7 juges et saisi 800 000 dollars au domicile des juges lors d'une série d'opérations anticorruption. Les fouilles ont permis de découvrir une fortune en liquide, en devises multiples, des biens immobiliers d'une valeur de plusieurs millions de naira et des documents compromettants.
Et on enchaîne directement avec votre page sportive. Ce soir, c'est avec Bagassi Koura. Bonsoir Bagassi.
Oui, bonsoir Eric, bonsoir à tous.
On ouvre par le football, Coupe du Monde 2018, première journée des éliminatoires de la zone Afrique ce week-end.
Oui, le Nigeria, vainqueur sur le terrain de la Zambie 2-1, a pris la tête du groupe B, le groupe de la mort, devant l'Algérie qui a concédé le nul à domicile face au Cameroun, 1-0, et c'était hier dimanche.
Et puis dans le groupe A, la Tunisie assure l'essentiel.
Oui, la Tunisie a assuré le minimum vital face à la Guinée-Conakry, 2-0 pour ne pas être distancé dans le groupe A, car la veille, son principal rival, la RD Congo, avait écrasé la Libye 4-0, avec notamment ce doublé de Dieu merci Mbokani.
Oui, et suite à cette défaite, la Libye limoge son entraîneur Javier Clemente.
Oui, la sélection libyenne, le sélectionneur libyen Javier Clemente a été limogé par la fédération libyenne après la défaite donc 4-0 samedi face au Léopard de la RDC, un match de qualification pour le Mondial 2018. Le technicien espagnol en poste depuis octobre 2013 dirigeait la sélection libyenne depuis l'étranger en raison de l'insécurité persistante dans le pays. On reviendra longuement sur ces éliminatoires dans le magazine Sporama.
Ça sera à 19h en Bagassé. Mondial 2022, un syndicat néerlandais menace d'attaquer la FIFA pour esclavage moderne.
Oui, le plus grand syndicat néerlandais et l'un de ses membres ont menacé ce lundi d'intenter un procès contre la FIFA pour avoir échoué à mettre fin aux violations des droits des travailleurs dans le cadre du Mondial 2022 au Qatar. Le syndicat FNV veut, avec un travailleur bangladais, amener la FIFA devant la justice pour exiger qu'une fin soit mise à cet esclavage moderne, a-t-il déclaré dans un communiqué. Le syndicat a dressé un ultimatum. La FIFA a 3 semaines pour réagir à cette demande, après quoi un procès sera ouvert au tribunal de Zurich, où se trouve le siège de la fédération.
Et c'est tout pour les sports. Merci.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique, Nathalie Barge et Eric Manirakidza en votre compagnie. Place au dossier du jour, première escale, le Niger.
Exactement, Nathalie. En effet, notamment pour revenir sur la tournée africaine de la chancelière allemande. Angela Merkel s'est rendue à Niamey ce lundi, au lendemain de sa visite à Bamako au Mali. À Niamey, nous retrouvons notre correspondant Abdelrazak Idrissa.
Comme au Mali, au Niger également, la chancelière allemande a évoqué avec les autorités, le président Issoufou Mahamadou notamment, sécurité et migration. Le bruit a couru que l'Allemagne va bientôt installer une base militaire au Niger, démenti du président Issoufou Mahamadou.
C'est pas exact. L'Allemagne a décidé d'envoyer 650 hommes en appui à la MINUSMA pour approvisionner pour la logistique. L'Allemagne a besoin du Niger pour l'aider à approvisionner régulièrement ces 650 hommes qui sont au Mali. Les Allemands donc sont présents au Mali et non pas au Niger. Parce que les gens amplifient parfois, oui, il y a une nouvelle base, après la base américaine, après la base française, il y a une nouvelle base allemande à Niamey. Il y a un centre logistique à Niamey pour soutenir les 650 soldats allemands qui sont présents dans la MINUSMA au Mali.
Le président nigérien a rappelé à la chancelière allemande ce qu'il a toujours prôné sur la situation au Mali voisin, à savoir le renforcement de la mission de la MINUSMA pour être offensive. Sur la question des migrations, Issoufou Mahamadou a demandé un soutien plus massif de l'Union européenne.
Les besoins des pays d'origine des migrants et des pays de transit comme le Niger sont sans commune mesure avec ce montant arrêté par l'Union européenne au niveau du fonds fiduciaire. Si je prends l'exemple, rien que le Niger, dans ses propositions qu'il fait, dans son plan d'action qu'il fait dans le cadre de la lutte contre la migration, les besoins du Niger s'élèvent à 1 milliard d'euros. Rien que le Niger, c'est 1 milliard d'euros qu'il nous faut. Alors, si vous ajoutez aux besoins du Niger les besoins des autres pays de transit des migrants ou les besoins des autres pays d'origine des migrations, vous voyez bien que 1,8 milliard d'euros, c'est loin d'être suffisant. Il faut donc un soutien plus massif à nos pays.
Avant de s'envoler pour l'Éthiopie, la chancelière allemande a visité un centre de transit de migrants installé à Niamey par l'Organisation internationale pour les migrations. Abdelrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
Blaise Compaoré, ancien président burkinabé, qui vit en exil en Côte d'Ivoire, s'est entretenu aujourd'hui avec Henri Conan Bédié, ancien président ivoirien. Après 27 ans au pouvoir, M. Compaoré a été chassé par la rue en 2014. Depuis, il ne s'est jamais exprimé en public. À propos de la rencontre entre les deux anciens chefs d'État, Idriss Fall a joint Alexis Tano, rédacteur en chef du journal Le Jour Plus à Abidjan.
Cette sortie de Blaise Compaoré, surtout, est la première édition depuis son exil à Abidjan. Après une demi-heure, à peine demi-heure d'entretien avec le président du PDCI FDA, il n'a pas souhaité faire des déclarations à la presse. Mais il faut dire que Blaise Compaoré était très souriant, bonne mine, et il est rentré bien sanglé dans son costume de sombre. Et il est entretenu avec le président du PDCI FDA, M. Henri Conan Bédié.
Pourquoi on avait donc convoqué la presse?
À ce niveau, je crois que ce n'est pas avec l'accord de l'ancien président de Burkina Faso, c'est la série de communications du président Henri Conan Bédié qui a souhaité faire une communication autour de cette audience. Mais à la fin, c'est sûr que Blaise Compaoré n'a pas souhaité vraiment en parler à la presse.
Donc il en est bien sorti.
Rien n'a fuité de cette courte audience, mais ce qui est sûr, il y a beaucoup de supputations qui se font autour, notamment en ce qui concerne la récente actualité judiciaire concernant l'ancien président Blaise Compaoré, mais il n'a rien déclaré à la presse.
Mais pourquoi voir Conan Bédié qui n'est plus au pouvoir et qui n'a pas de pouvoir, justement?
Oui, Ali Kona Bedi, c'est vrai qu'il n'est pas au pouvoir en Côte d'Ivoire, mais Ali Kona est très impliqué dans la gestion du pouvoir en Côte d'Ivoire. Il est consulté sur tous les grands dossiers. Le président de la République de Côte d'Ivoire, son Ouattara, l'a prêté affectueusement son aîné. Et il ne manque aucune occasion pour rencontrer M. Konan Bédé. Et il y a à peine une semaine qu'il a rencontré Ali Kona Bédé sur la nouvelle mouture de la constitution ivoirienne. Donc Ali Kona Bédé est très impliqué et il est une personnalité très influente en Côte d'Ivoire, bien qu'il n'étant pas au pouvoir.
Quand même, Blaise est assez proche d'Alassane Ouattara, non? Le camp Gbagbo l'avait accusé d'avoir été le parrain des rebelles, notamment des Guillaume Soro et autres.
Oui. Mais tu sais, le rapprochement Blaise comparé à Ali Kona Bédé s'est fait notamment dans la gestion et le règlement de la crise ivoirienne. Vous savez que Ali Kona Bédé, Alassane Ouattara ont régulièrement été reçus par l'ancien président Blaise Compaoré. Et cela, tous les sujets qui concernaient la crise ivoirienne était un sujet qui était couramment abordé et vraiment réglé avec la complicité de ces quatre personnalités. Donc, Blaise Compaoré, Ali Kona Bédé, sur bien des sujets, ils ont un point de vue assez courant quand même.
C'était Alexis Tano, rédacteur en chef du journal Le Jour Plus à Abidjan.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
En République du Congo, le procureur de la République André Okong-Gakala a accusé de terrorisme dans le pool Frédéric Bitsamou, connu sous le sobriquet de Pasteur Ntoumi. Brazzaville traque le Pasteur Ntoumi et ses hommes dans ce département du sud de la capitale, tandis que ces derniers affirment se défendre avec des fusils de chasse. La société civile appelle à un dialogue entre les deux parties. Les détails avec notre correspondant Nguela Ngoussou à Brazzaville.
Le procureur de la République a qualifié de terroriste le pasteur Ntoumi et ses miliciens ninja. Et les a tous rendus responsables des actes de tuerie, de viol, de pillage, d'attaque de train ou d'incendie de véhicules régulièrement constatés dans le pool. Pour André Okong-Gakala, le pasteur Ntoumi et ses hommes doivent être jugés pour ces actes.
J'ordonne une fois de plus à la force publique de tout mettre en œuvre pour rechercher, arrêter et conduire à mon parquet Bitsamou Frédéric alias Pasteur Ntoumi, ses co-auteurs et ses complices. J'informe l'opinion nationale et internationale que les mandats d'arrêt décernés contre Bitsamou Frédéric alias Pasteur Ntoumi, ses co-auteurs et complices le 22 avril 2016 demeurent tenants, c'est-à-dire exécutoires sans faille par la force publique. Depuis le 4 avril 2016 jusqu'à ce jour, Bitsamou Frédéric alias Pasteur Ntoumi et ses miliciens ont régulièrement attaqué des bus, des trains et des positions de la force publique, interrompu les trafics routiers et ferroviaires et donné la mort aux populations civiles, causant ainsi deuil et désolation.
De leur côté, les ninjas se défendent de n'avoir que réagi avec des fusils de chasse aux provocations des forces de l'ordre déployées depuis plus de 6 mois dans le pool. Franck Eloge Mpassi est le porte-parole du pasteur Ntoumi.
On le dit qu'il n'a pas fait l'enquête, n'a pas droit à la parole. Entre le bombardement d'un hélicoptère et l'utilisation d'un calibre 12, qu'est-ce qui terrorise mieux la population? Il faut qu'on regarde ces rapports de force. Ce que nous demandons, nous sollicitons que les deux camps dialoguent. C'est le dialogue qui va régler le problème.
À la société civile, les appels à la responsabilité de l'État pour protéger les civils et ramener le calme dans le pool se répètent. Luamba Moké, président de l'Association pour les droits de l'homme et l'univers carcéral.
Depuis 1993, le pool est toujours dans des difficultés. Et lorsqu'il y a, un événement malheureux dans notre pays, le pool est toujours à la tête, le pool est toujours concerné. Donc c'est le chef de l'État doit se lever pour prendre des décisions, et des décisions courageuses pour effectivement, et ces décisions pour nous c'est le dialogue.
Après une semaine de suspension de tous les trafics routiers et ferroviaires sur le pool, un premier train de carburant a pu rallier la capitale. Nguela Ngoussou, Brazzaville, VOA Afrique.
Vous êtes sur VOA Afrique à Brazzaville, sur le 101.9 FM.
présidentielle américaine, Donald Trump et Hillary Clinton, les candidats républicains et démocrates à la Maison-Blanche, ont croisé le fer hier dans un débat particulièrement acharné. Ils étaient en face d'un panel d'électeurs indécis et de deux journalistes modérateurs, Anderson Cooper et Martha Raddatz. Au lendemain de ce deuxième duel, les réactions fusent de toutes parts. Le point avec Salwa Jafari. Bonsoir Salwa.
Bonjour Nathalie, bonjour Eric. Et oui, c'était un débat digne d'un match de boxe, ou plutôt de boxe libre, où tous les coups étaient permis, même les coups bas. C'est le constat que dresse l'ensemble de la presse américaine aujourd'hui. Le Wall Street Journal l'a même décrit comme étant le débat le plus atroce de l'histoire des États-Unis. Le Washington Post a titré « Nous, on n'a jamais vu une chose pareille ». On savait que le combat allait être acharné dès les premières secondes, puisque les deux candidats ne se sont pas serrer la main, comme c'est de coutume. Une question du public a envoyé Donald Trump dans les cordes dès le premier round, après la divulgation de ses propos dégradants sur les femmes, abandonnés par un grand nombre de républicains à moins d'un mois des élections présidentielles. Le candidat républicain a en effet opté pour un affrontement très personnel. Il s'est encore une fois excusé pour ses propos, mais a dans la foulée voulu traîner le nom Clinton dans la boue.
Mais si vous regardez Bill Clinton, c'est bien pire. Pour moi, c'était des mots, pour lui, c'était des actes. Ce qu'il a fait aux femmes n'a jamais été fait dans l'histoire de la politique de cette nation. Il a abusé des femmes.
Donald Trump a enchaîné les revers et a remis sur le tapis l'affaire des emails d'Hillary Clinton. La candidate est accusée depuis plusieurs mois d'avoir envoyé des milliers de mails à partir d'un serveur privé non sécurisé, alors qu'elle était secrétaire d'État. Trump n'y est pas allé de main morte, il a même brandi des menaces contre Hillary.
Si je gagne, je vais donner l'ordre à mon ministre de la Justice de nommer un procureur spécial pour faire la lumière sur votre situation, parce qu'il n'y a jamais eu autant de mensonges.
Pour la majorité des médias américains, Trump a été trop loin. En menaçant Hillary Clinton d'emprisonnement, la candidate démocrate semblait plus maîtrisée, mais parfois sur la défensive. Ses sourires étaient plus crispés. Ceux de Donald Trump étaient tout simplement inexistants. Les deux candidats se sont également affrontés sur la question des impôts ou encore sur le rôle de Vladimir Poutine dans la campagne américaine.
Peut-être parce qu'il a fait l'éloge de Poutine, peut-être parce qu'il a dit qu'il était d'accord avec beaucoup de choses que Poutine fait, peut-être qu'il veut faire des affaires avec Moscou. Je ne connais pas les raisons, mais on a droit à des réponses.
L'un de mes moments favoris, vers la fin du débat, un spectateur a en quelque sorte forcé les deux candidats à s'envoyer des fleurs. Hillary Clinton a choisi de rendre hommage aux enfants de Donald Trump et Trump a salué la persévérance de sa rivale. Alors, qui a gagné le débat? La réponse d'après un sondage de YouGov, une firme de recherche des marchés, 47% des électeurs ont choisi la candidate démocrate contre 42% pour Trump. Reste à savoir si la candidate démocrate saura conserver cette avance. Il reste un troisième et dernier débat avant les élections, dans 29 jours.
C'était la chronique présidentielle américaine signée Salwa Jafari. Merci Salwa.
Salut les amis, Roger Muntou, la voix de l'Amérique. Restez branchés chaque lundi dans l'émission RM Show entre 20h et 21h, temps universel. Au menu, le top 10 American Music, les nouveautés de la musique américaine. Ne ratez pas votre émission interactive. RM Show vous dit Peace Africa.
C'est la fin de cette édition. Michel Joseph a dirigé la mise en onde avec l'assistance de Joe Gill à la console. Présentation, Eric Manirakiza et Nathalie Barche.
Ainsi va le monde aujourd'hui. Merci d'être à l'écoute de VOA Afrique. On continue la conversation sur Facebook et notre site internet voaafrique.com pour plus d'infos 24 heures sur 24.
VOA Afrique, les infos. À Washington, Nathalie Barre.